Alors, certains l'ont déjà entendu, et j'en suis navré, mais peut-être qu'ils ont besoin de le réentendre. Et puis, on va essayer de partager aussi, de compléter. Alors, si vous voulez bien, on va se remettre au Seigneur. Seigneur, merci pour cette joie de partager des moments ensemble, cette joie de voir aussi ta parole, tout ce qui est écrit pour nous, désireux qu'elle agisse dans nos cœurs, et nous confessons que quelquefois c'est difficile, mais toi tu es le Dieu qui est au-delà de ça. Alors garde-nous dans cette soirée, veille sur nous, donne-nous de t'entendre, et puis que ce soit ton esprit qui parle et pas de l'intelligence ou des connaissances, mais que toi-même tu t'adresses à chacun d'entre nous. Te demandons cela dans le nom précieux de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de nos âmes. Amen. Et donc, on part d'une histoire qu'on trouve dans la parole de Dieu, puisque c'est ici notre référence, qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 6. Alors, qu'est-ce qui se passe au chapitre 6? Eh bien, il y a un brave garçon qui se trouve dans un pressoir. Et un pressoir, c'est une pièce que je pense ronde, mais ça n'engage que moi, et dans laquelle il est en train de battre le blé pour faire enlever les pailles et que le grain reste. Alors, habituellement, on fait ça plutôt en haut d'une montagne pour que le vent balaye les fétus et que la graine reste. Mais là, cette fois-ci, lui, il fait ça caché, plutôt dans une sorte de cave ou de remise. Pourquoi ? Parce que les ennemis sont là et il fait ça un peu en cachette. Ces ennemis, dans le cas précis, ce sont des Madianites. Et on va en parler un peu plus loin. Le peuple d'Israël a été prisonnier en Égypte longtemps, et puis Dieu les a fait sortir parce qu'il y avait des promesses qui avaient été faites à Abraham bien longtemps avant. Et voilà que ces promesses que Dieu avait faites à Abraham en disant « Je vais vous donner un peuple, je vais vous donner une région, vous allez être une grande nation, une grande famille », eh bien, le peuple a fini en Égypte, il est prisonnier du Pharaon, et puis finalement il sort, et puis il traverse même la mer Rouge. Moïse fait, par l'ordre de Dieu, ouvrir la mer, le peuple sort, ils vont dans le désert, ils vont y passer 40 ans, et puis il y a cette promesse d'avoir ce pays et de le conquérir. Et là, les problèmes vont continuer, j'allais dire commencer, mais non, ils vont continuer. Et si on lisait dans le livre des Juges, l'histoire de Gédéon, c'est au chapitre 6, mais déjà avant, ça commence, et on voit une alternance de le peuple d'Israël fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et Dieu envoie des peuples pour les attaquer. Le peuple d'Israël réfléchit, se retourne vers Dieu. Dieu chasse ses envahisseurs ou ses peuples ennemis. Et puis, peu de temps après, à nouveau, le peuple fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et on voit, c'est une alternance. Et au long des chapitres, tout le livre, là, ça se répète. Et ce sont des chutes, et on retombe, et on recommence, et on fait à nouveau ce qui est mauvais, et Dieu met un jugement pour redresser, le peuple se redresse, et rapidement, ça retombe. Et alors, on voit que ce peuple est en butte à des ennemis. Alors, ces ennemis, ils ont deux positions. Bien sûr, notre Dieu est un Dieu souverain. Et il ne se passe rien sans que Dieu l'ait permis, sans que Dieu l'ait laissé faire, sans que Dieu même l'ait voulu. Mais, et ça c'est acquis, il faut que ce soit posé, qu'il ne se passe rien, quoi qu'il se passe, que Dieu n'ait laissé faire ou accepté. Mais ces ennemis qui veulent détruire le peuple, qui veulent les empêcher d'attraper la promesse, Dieu a promis cette terre, ce lieu ruisselant de lait et de miel, etc. Et ce peuple veut cette terre, Dieu l'a promise, il faut la conquérir. Et donc vont se succéder des peuples qui vont s'opposer à cette conquête. Et tout au long, on va voir que ça va se succéder les uns les autres. Alors j'en ai relevé 7, il y en a peut-être d'autres. On pourra partager là-dessus parce que je n'ai pas peut-être tout vu, sûrement tout vu. Mais voilà que moi j'ai retenu quelques-uns. Les Moabites, les Gabaonites, les habitants de Jéricho, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque, les Jérichotiens peut-être, ou je ne sais pas. Les Philistins, les Amalékites, les Madianites, les Jébusiens. Voilà sept nations, sept peuples, sept tribus qui vont s'opposer à Israël dans sa conquête. Dieu avait dit, il faut les détruire, il faut prendre leur place. Il fallait détruire parce qu'ils étaient coupables, ils avaient péché. Dieu avait dit à Abraham, tu ne pourras pas aller parce que l'iniquité d'Amalek n'est pas encore à son comble. Il faut encore faire la preuve qu'ils sont vraiment irrécupérables. Eh bien, quand même, à un moment, ils vont s'opposer vraiment à Israël. Et je vous propose qu'on les voit les uns après les autres. Et les premiers sont les Moabites. Les Moabites ont cette particularité. Chaque peuple, vous allez voir, chaque peuple a une technique, a une approche particulière pour s'opposer à Israël. Les Moabites, ce sont eux qui vont entraîner le peuple vers la corruption, la fornication et l'idolâtrie. Moab, alors ça se trouve dans l'actuelle Jordanie. Et Moab est issu, c'est encore des gens de la famille ça. Moab, ce sont les descendants de Lot, qui était le neveu d'Abraham. Donc ils étaient un peu dans l'arbre généalogique. Hein, vous vous rappelez, je crois que c'est l'an dernier, on avait fait l'arbre généalogique de toutes les tribus, pour ceux qui étaient là. Et on avait fait un peu cette histoire, comment Moab, donc ce sont les descendants de Lot, lorsque Lot a quitté Abraham parce qu'il y avait une dispute avec les bergers, ils ont décidé d'aller chacun de leur côté. Et Abraham a laissé Lot choisir. Lot a dit, je choisis la plaine. Et donc, la plaine du Jourdain, c'est dans la Jordanie actuelle. Et Sodome et Gomorre, il va se mêler à la population, ça va mal se passer. Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorre, qui étaient dans une perdition complète. Abraham a intercédé. Et du coup, Lot a pu sortir. Et il va s'échapper juste avec sa famille proche. Sa femme va rester en route et ils vont s'éloigner dans la montagne là. Et puis les filles vont se désespérer d'être seules comme ça et vont trouver une bonne solution pour avoir des enfants, c'est de coucher avec leur père. Et voilà. Et donc de là va naître ces deux peuples, Ammon et Moab, qui seront pour toujours des ennemis d'Israël. Et donc les Moabites, alors on va en connaître des Moabites plus tard, hein, c'est Ruth, est une Moabite, mais ils vont être un peu spécialistes d'entraîner le peuple dans les mauvaises choses. Et on trouve dans Nombre, au chapitre 25, on peut regarder pour ouvrir un peu la Bible quand même. Et Nombre 25, je vous lis le début du chapitre, « Israël habita en Sittim ». Et le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Et Israël s'attacha à Baal Péor, qui était un dieu local. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Et voilà, il y aura un jugement de colère de l'Éternel contre ceux qui vont se laisser aller. Donc voilà, les Moabites, c'est eux qui vont corrompre Israël. Alors qu'ils ne sont pas loin, c'est des petits cousins, mais ils vont entraîner cela. D'autres peuples, ce sont les Gabaonites. Les Gabaonites, ils habitaient à côté de Jéricho. Jéricho, c'était une forteresse qui empêchait le peuple d'entrer dans le pays. Alors, on va en parler tout à l'heure, le peuple va se remettre à l'Éternel et Dieu va donner la délivrance en faisant tomber Jéricho. Et Gabaon, qui était la ville un peu à côté, s'est dit, oula, ce qui est arrivé à Jéricho, prochain coup, c'est pour nous. Donc, comment on peut faire? Et ils se disent, si on attend que ça arrive, ça va nous tomber dessus. On va partir dans le désert, on va se déguiser, on va prendre des vieux habits, du pain tout pourri, on va prendre des outres pour les liquides, tout ça, là, abîmés, percés. On va faire les misérables. Et puis, on va arriver en disant qu'on est perdu, qu'on ne sait pas où aller. Et ils auront pitié de nous et ils nous prendront avec eux. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont se présenter là comme des gens perdus et Josué va accepter de faire une alliance avec eux. Et eux avaient dit, si vous nous gardez, on sera vos esclaves, on coupera votre bois et on sera les porteurs d'eau et on va s'occuper et on vous servira. Et donc il va y avoir un contrat entre Gabaon et le peuple d'Israël. Ils vont servir, mais du coup, Israël doit les protéger, les prendre avec eux et les charrier avec eux. Et donc, ça va être un peu ces boulets que Israël va se traîner, qui vont toujours être un peu à la remorque. Après, on verra le ramassis du peuple. Ils vont toujours être un peu de ceux qui freinent, de ceux qui retiennent, de ceux qui empêchent d'avancer, parce qu'ils n'ont pas dans la promesse. Ils sont un peu en arrière. Et donc, eux, ils vont toujours freiner. Et les Gabaonites vont... On fait une tromperie. Par tromperie, ils ont obtenu une alliance. Et du coup, Israël est lié et entravé par ces Gabaonites. On trouve l'histoire dans Josué au chapitre 9, verset 23. Et donc, puisqu'on vient de parler de Jéricho, Jéricho, c'était une ville forte, entourée de murailles, et il fallait passer au-delà. Alors, comment faire ? Pour attaquer ça, c'était compliqué. Et donc Dieu demande au peuple de faire le tour de la muraille, hein, qu'on est le petit chant des enfants là, et ils vont faire 11 fois, 6 et 7, 13 fois le tour de la muraille. Donc 6 jours, ils vont faire un tour, et le 7e jour, ils vont faire 7 tours. Et la muraille s'écroula, comme dit le petit cantique. Et donc, le peuple, quand même, voyait ces gens de Jéricho comme des géants. Il y avait ces murailles, ces grandes forces qu'il y avait là. Et ils ont dit, mais on se sentait comme des sauterelles devant eux. C'est des gens qui ont impressionné, qui ont choqué, il y a eu des espions qui sont venus, il y a eu un tas de choses qui s'est passé. Parce que c'était impressionnant. Des gens qui impressionnent, qui sont protégés, enfermés dans leurs murailles. C'est des forteresses. Et pourtant, qui seront abattus. Notre peuple sont les Philistins. Alors les Philistins, tout au long du Pentateuque, là, on les voit revenir souvent. Ils viennent, ils se prennent des raclées, et puis ils retournent, ils recommencent, ils n'en ont jamais assez, et chaque fois, ils attaquent, et ils détruisent, et voilà, c'est très compliqué. Tout long, il va y avoir ces combats avec ces Philistins. Et les Philistins, ils avaient quelque chose de particulier, on le trouve dans 1 Samuel 13, au verset 19, c'est qu'ils avaient interdit au peuple de fabriquer des armes et d'en conserver. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé en Europe, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Il avait été interdit aux Allemands de fabriquer des armes. Et bien là, ils avaient interdit aux Juifs ils avaient confisqué les armes et leur interdisaient d'en reconstruire. Il n'y avait plus de forgerons, il n'y avait plus de spécialistes en construction d'armes. Et donc, c'est leur spécialité, au-delà du reste, c'est de confisquer les armes et d'empêcher d'en construire de nouvelles. Autre peuple ennemi, les Amalékites. Eux, leur technique, c'est de laisser passer le peuple qui se déplace là, puis ils viennent par derrière, et quand les hommes sont partis au combat pour attaquer une ville, pour attaquer un endroit, eux, ils viennent et ils s'attaquent à ceux qui restent en arrière. Les femmes et les enfants et les vieillards. Et ils vont détruire, abîmer, saccager ceux qui sont en arrière, les plus faibles du troupeau, c'est là où ils vont concentrer leurs forces pour affaiblir le peuple d'Israël. Ils ne sont pas très courageux, ils viennent par derrière et ils prennent les faibles, les femmes, les enfants, les vieillards. Les Madianites. Madianites aussi, c'est de la famille. Madianites, c'était, ils descendent de Keturah, qui était la deuxième femme d'Abraham. Donc, c'est aussi des petits cousins, quelque part. Et eux, ils vont attaquer, et on les voit dans Juges, au chapitre 6. Eux, ils pillent les récoltes. Ils viennent, ils saccagent tout, ils pillent les récoltes, ce qui fait que l'année d'après, le peuple n'a rien pour planter, rien pour manger, et voilà. Leur spécialité, c'est d'affamer et de piller les récoltes. Voilà leur projet. Et c'est comme ça qu'ils vont procéder avec le peuple d'Israël. Les derniers, les Jébusiens. Alors eux, les Jébusiens, ils découragent. Et il y a une fameuse histoire qu'on trouve dans 2 Samuel au chapitre 5. Ils vont dire à David, mais attends, toi tu viens là, mais il faudrait qu'on t'envoie les boiteux, les aveugles et tout pour se battre avec toi. On ne va pas y aller nous. On va t'envoyer les minables de chez nous. Ça suffit. Tu n'as pas besoin qu'on envoie l'armée. On va t'envoyer tous les bras cassés, là, les bons à rien, et eux, ils vont faire affaire avec toi. Ça va suffire. On ne va pas déranger nos soldats. On va t'envoyer nos bons à rien. Parce que toi, tu es vraiment nul. De toute façon, tu ne vas pas y arriver. Et donc, ceux-là, là, les Jébusiens, c'est ceux qui découragent, qui disent « ça ne marchera pas. De toute façon, tu es un bon à rien. Tu ne vas pas y arriver. » Voilà comment ces sept tribus, ces sept peuples, vont s'attaquer au peuple d'Israël pour l'empêcher, le retenir, d'avoir la victoire et de conquérir le pays. Chacun a une technique particulière. Chacun a une forme de pensée, une forme de fonctionnement pour freiner, limiter, empêcher, détruire l'avancement de la conquête. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on est bien renseigné sur les techniques des Israéliens, des peuples contre Israël. Ça fait un petit peu de culture biblique, ça fait un petit peu d'histoire, mais samedi, on rentre à la maison, lundi matin, on va au boulot. Et on fait quoi avec ça? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose quelques questions, parce qu'au-delà de l'aspect historique, qui est ce qu'il est, et qui est une réalité de la parole de Dieu, ces ennemis sont des suppôts, des envoyés de Satan. Et ces mauvais plans, ces mauvais projets, c'est Satan qui leur soumet ça, qui leur propose cela. Et les techniques de l'ennemi n'ont pas beaucoup changé pour une raison essentielle, c'est que comme elle fonctionnait bien et que ça allait bien, il a continué à s'en servir. Et la parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites pour notre avertissement. Et ce serait intéressant de se poser la question de voir pour nous qui sont nos adversaires. Dans l'esprit de ces peuples, qu'est-ce qui nous empêche de croître? Qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait qu'on est retenu dans notre marche chrétienne ou dans notre avancement spirituel? Alors, on peut le voir sur le plan personnel, dans mon avancement personnel, dans la famille, évidemment. Et puis, dans l'église, le travail et encore d'autres lieux. Qui ou quoi? Alors, qui, ça peut être une personne, mais quoi, ça peut être un mode de fonctionnement, un mode de pensée. Et peut-être que, je me souviens, c'est un pays africain, je ne sais plus lequel, peut-être le Togo, où on avait parlé de la démonologie et comment on pouvait lutter contre les démons, etc. Padalala. Et puis, il y a un pasteur à la fin qui me dit, mais moi, j'ai chassé beaucoup de démons dans ma vie. Mais là, je viens de comprendre que le pire d'entre eux, il s'appelle Kofi. Et Kofi, c'est mon nom. Et le pire démon, c'est moi-même, quelquefois. Hein, et la parole de Dieu nous dit qu'il faut résister au diable, mais qu'il faut fuir les convoitises qui nous assaillent. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on revienne un peu en arrière, en reprenant la typologie de chacune des techniques employées et qu'on voit pour nous-mêmes à quoi ça pourrait faire référence. Alors, on revient aux Moabites. Et je vous propose qu'on est un peu nombreux quand même, on fasse peut-être un petit groupe ici, un deuxième là, 3, 4, 5, ça va comme ça. On prend 10 minutes. Et puis après, on fera un petit retour. Qui dans ma vie, dans notre vie, peut être un Moabite? Est-ce que... Qui peut m'amener à l'idolâtrie? Est-ce que l'idolatrie, ça nous concerne, nous, ici, en Europe, aujourd'hui, là, en France? Moi, une jeune idée a dit « je suis l'idole des jeunes », mais ça, c'était, bon, dans la tête. Mais est-ce que j'ai une idole? Moi, je ne vais pas me prosterner devant un bout de bois, quoi. Hein, c'est pas mon genre. Et pourtant, 1 Jean 5, l'apôtre Jean finit à la fin de la première épître, « Enfants, gardez-vous des idoles ». Et il écrit à des croyants. Il écrit « Père, aux enfants, aux jeunes gens ». Et il dit « Gardez-vous des idoles ». Alors, si l'apôtre Jean me dit de me garder des idoles, moi, je ne vais pas me prosterner devant un bout de bois. Honnêtement, ce n'est pas mon truc, quoi. On ne va pas faire ça. Personne d'entre nous va le faire. Ce n'est pas notre culture. Alors, qu'est-ce qui, pour moi, peut être une idole? Alors, oui, il y a Johnny Hallyday, hein, mais il y a plus que ça. Il y a d'autres choses.